Bon, quand même, si je vais vous interroger là-dessus, vous l'avez vaguement évoqué, vous l'avez approché, effleuré, et si vous voulez bien peut-être le développer, s'il y a lieu, c'est puisqu'on est réunis autour de la question du rituel. Vous avez dit tout à l'heure que ces femmes, à un moment donné, il y a eu nécessité de réinvestir des rituels, vous les appelez néo, pas néo-originaires, mais néo, je sais pas quoi,
Néo-traditionnel,
néo-traditionnels.
pratiquement.
Est-ce que peut-être vous pourriez en dire quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est lors d'une réécriture d'un rite traditionnel qui du coup prend en compte les... Je commence de se faire tard, donc je pourrais être bref, je vais dire les choses un peu très simplement, hein, vous m'excusez. Mais est-ce que c'est une manière de réécrire à partir d'événements traumatiques de la vie singulière et de la vie collective, je dirais. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas du tout? Comment ça se joue pour elle, du coup?
De réécrire, et je lui manque quand même partie de la phrase pour que je
De
comprenne.
réécrire, pardon, les rites. Est-ce que c'est une réécriture de rite traditionnel ou est-ce que c'est juste un temps qui a une autre valeur? C'est ça que j'ai pas bien entendu. Puisque vous avez évoqué le fait qu'elle réinvestissait des rites néo-traditionnels qui permettaient d'engager la parole et d'engager la relation de ce qui n'était pas dit jusqu'alors,
Je comprends
si je
dans le
vous ai
sens
bien
de
entendu.
sanation. Oui, parce qu'en réalité, donc un élément très fort de la colonisation, c'est la christianisation forcée. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, du coup, un élément de résistance à ça, ça a été la pratique à la fois de manière clandestine, de leurs propres croyances, etc., mais aussi un syncrétisme, un ensemble de syncrétismes. Et un autre élément qui est important, c'est la très forte présence de la théologie de la libération. Donc, pour les gens qui peut-être ne sauraient pas bien, c'est vraiment une réinterprétation très à gauche, on va dire, notamment dans le catholicisme, hein, mais aussi dans d'autres religions. Mais bon, notamment au Salvador, au Guatemala, dans le Chiapas, une grosse partie des révolutionnaires, moi, je travaillais sur la participation des femmes au processus révolutionnaire au Salvador, hein, c'était ça le sujet de mes recherches de thèse, etc. Et en fait, 90% des révolutionnaires armés, ils venaient de la théologie de la libération, ils et elles venaient. Et ça a été un moyen de mobilisation extrêmement fort, notamment des femmes et notamment des populations indiennes. De la même manière, au Chiapas, le mouvement zapatiste, dont vous avez probablement, j'espère, entendu parler, c'est pareil, il s'est énormément nourri et il s'est structuré sur la base de la théologie indienne qui a été portée notamment par Samuel Ruiz, l'évêque, théologie de la libération, etc. Donc, tout ça nous parle de rituels et de croyances et de spiritualités qui sont syncrétisées, qui sont réinventées, qui sont politisées de différentes manières. Et quand je dis qu'il s'agit de néo quelque chose, c'est aussi parce que, bien sûr, les cultures indiennes ne sont pas, d'abord, elles sont diverses, nombreuses, complexes, différentes les unes des autres, et puis elles ne sont pas statiques. Donc, en réalité, tout ça, ce sont des réinventions. Ce serait complètement illusoire de se dire les gens pratiquent ce qui était pratiqué, quand et où. Ces rituels sont extrêmement importants, mais ils sont aussi complètement intégrés. C'est pas quelque chose qui est à part. Je sais pas comment dire exactement, mais on se réunit pas pour faire un rituel. Là. Ça fait partie de la chose, ça fait partie de la pratique, ça vient tout seul en quelque sorte. Même si, voilà, j'essaye de dire deux choses à la fois, même si c'est pensé politiquement. Hein. Donc, c'est pensé politiquement comme un instrument pour dépasser, on pourrait dire la sanation, ce serait un petit peu ce qu'on pourrait appeler quelque part la résilience. Mais c'est une résilience qui est collective, qui est
Ce
politique, qui est
serait
liée à la
dommage qu'on les
justice
ait
et à la
pollués avec
mémoire.
ce serait dommage qu'on les ait pollués avec cet affreux terme de résilience, je
Okay.
trouve. Sanation, vous l'écrivez comment?
Sanacion
Et le
avec un.
san, il est du coup, le san, c'est, je parle pas du
C'est
tout
de sanar, de
de sanas, donc c'est donc
sainte.
voilà, c'est une nation quoi?
Non, 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 la
Non,
nation, c'est pas la
le
nation,
son.
c'est
Ah, c'est
le
sanation.
sanation, un processus.
Soin.
Voilà, c'est
Ah.
un
En anglais,
soin.
on dirait
Ah
healing.
ouais,
mais du coup,
En
et
anglais, on
nation, vous le dites
dit
comment? En espagnol, nation, vous le dites comment?
healing.
Ah ben, c'est quand même hyper équivoque. C'est un truc collectif qui est du côté
Nation.
du
Non, mais non,
Caire.
non, ça c'est ton côté.
Oui,
Oui,
mais c'est dans la langue,
non,
c'est
c'est
pas.
parce que
Oui,
sion,
non, mais j'entends.
c'est un postfixe, mais
Oui,
la
non, mais j'entends
sana, c'est
bien.
pas nation.
Oui, j'entends bien, mais quand même.
Sanasana pulito de rana.
Oui, mais justement, par rapport à la notion de sanation, et tu évoquais la question de l'écoféminisme, qui évidemment n'est pas. Et on pourra en parler avec Jeanne Bulcain demain, je pense. Mais en relisant un des textes, un des chapitres du livre qu'on a mis dans le Vademecum de Patrick Olivier-Laralia, où évoquer la question de sanation comme qui est donc difficilement traduisible comme la rupture du silence, la reconstruction de la mémoire et la guérison, ça m'a fait penser à ce terme aussi difficilement traduisible de reclaim qui est utilisé par les écoféministes anglo-saxons en tout cas, qui est évidemment pas une histoire de guérison, mais où il y a aussi une histoire de revalorisation du rapport au corps, du rapport à la terre, du rapport aux traditions néo-païennes. Et enfin voilà, c'était plus une remarque ou une piste sur quelque chose. Enfin, je me demandais si on ne pouvait pas créer un pont entre ces deux termes, même s'ils ne veulent pas dire la même chose, évidemment. Et je voulais aussi, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter quand on s'est rencontrés en ligne, peut-être est-ce que c'est possible d'évoquer rapidement la question de ces pratiques assez performatives que tu avais évoqué sur ces femmes qui se présentent en place publique pour voilà, sont tout dévoilées, ces corps qui sont mis en avant devant des bâtiments institutionnels, enfin, voilà, ces actions.
Oui, tu as raison, c'est intéressant. J'ai hésité, je me suis demandé si ça valait la peine d'essayer de présenter, mais en même temps, et puis la qualité du document n'est pas très bonne, mais en réalité, dans tout ce processus de visibilisation des violences sexuelles, donc, c'est des femmes métisses qui ont commencé ça, qui ont travaillé avec des femmes indiennes, mais des femmes métisses urbaines, avec des femmes indiennes rurales, et puis, à un moment donné, elles se sont regardées, les métis urbaines, elles se sont regardées elles-mêmes et elles ont dit, mais nous aussi, on a vécu de la violence par inceste, de la violence sexuelle, donc par nos maris, nos compagnons, les flics, les machins, etc. Donc, elles ont travaillé ça et ce processus, je simplifie et je résume horriblement, a débouché notamment sur la création d'une batucada lesbienne d'abord, ou féministe, alors je ne sais plus, lesbienne, je pense, qui en 2007, pour le 8 mars, elles sont allées sur la place centrale de Ciudad Guatemala et donc la batucada a joué et elles avaient bien préparé leur action et des femmes se sont dénudées et elles avaient peint sur leur corps une lettre chacune qui disait « Mon corps est à moi ». Et donc au Guatemala, sur la place centrale avec le palais présidentiel, la cathédrale, c'est vraiment très balèze, donc ce n'est pas du tout l'effet mène, ce n'est pas du tout des corps esthétisés avec des seins esthétisés, clin d'œil. C'est pas du tout, c'est vraiment une revendication du corps, je sais pas, dans sa dimension de corps, et une revendication de demi. Et il y a une autre action qu'elles ont fait peu après dans le cadre du forum interaméricain du FSM centra-américain, plutôt, non, Forum social mondial centra-américain, qui avait provoqué au début d'ailleurs une réaction assez épouvantée de certaines femmes indiennes qui ensuite vont devenir le groupe Anis Nassar. Elles ont fait une photo, un groupe a fait une photo d'elle, de plusieurs femmes, nues, pareil, avec « Mon corps est à moi, libre d'exploitation, libre de racisme, libre de lesbophobie, de grossophobie. » Et elles ont fait cette grande affiche et elles l'ont mise sur, elles avaient fait une tente des femmes dans ce forum social, qui est un truc quand même normalement de gauche, progressiste et tout. Et la plupart des gens étaient très choqués, alors que c'était leur message et leur réflexion politique. Donc, c'est intéressant de voir comment la lutte contre les violences sexuelles des années 80, exercée par l'armée, a provoqué tout un mouvement dans le mouvement des femmes et féministes à l'échelle nationale et un mouvement dans la politique nationale et même dans la politique régionale. Un mouvement dans lequel le corps a été mis en avant et le corps comme aussi le siège, le corps individuel, mais aussi le corps collectif, comme le siège de l'autonomie et comme ce qui est à récupérer et ce qui est à revendiquer.
Voilà. Je pense que ça fera le lien assez formidablement avec ce que pourra aussi nous expliquer Camille demain.
Ouais, quand même, un corps libre d'exploitation, c'est un peu dur à entendre.
C'est un projet.
C'est un projet.